retour dans Politique Correct. Guillaume à tes côtés, Olivier Fortin-Thibault, Yvon Demers.
Oui, on est là.
Fidèle au poste, it's like this. Sur un petit instru de Snoop Doggy Dogg, si vous vous demandiez. Monsieur Demers, avez-vous reçu une alerte sur vos machines, vous qui êtes ici techno, aujourd'hui? C'était supposé d'être la grosse alerte là partout, c'est cellulaire.
Ah non, j'ai pas.
J'ai pas su ça. Sur vos trois cellulaires, quatre tablettes, 10 laptops. Non? Toi, Ali?
J'ai aucune idée de quoi tu parles.
Toi, pour vrai, t'es grayé quand même en technologie. Wow. Je regarde ça, un beau petit Mac.
Ah, je suis quand même assez techno, mais j'ai aucune idée de quoi tu parles. Okay.
C'est la semaine de la sécurité publique, mon gars. Puis, il était supposé d'envoyer un texto d'alerte à tout le monde. Ici, à la radio, ils ont fait un test. Ça a marché. Je l'ai entendu chez nous. J'ai failli me planter à terre. Faites le saut. Ça part, ça. Puis, ceci est un test à chaque fois. Parce que finalement, ça sert jamais. Là. Il y a peut-être une alerte en berre qui peut arriver, mais des tornades dans le coin issu, c'est plutôt rare. Puis, de toute façon, c'est pas très dommageable, on n'a pas des F4. Là. Et ouais. J'écoutais la télé en même temps et ça a passé à CNN. Là, tu sais, ils savent qu'on est sur un canal canadien. Et là, ça vient tout rouge, puis il y a une alerte. Mais ils ont raté leur occasion avec les cellulaires. C'était supposé de se faire aujourd'hui. Et M. Demers, je ne l'avais pas eu.
Non, mais en parlant de semaine, je pense à ça. Là, c'est du 7 au 11 mai, c'est la semaine de la santé mentale.
Alors. Aussi?
Oui.
OK. Le 7, c'est aujourd'hui, ça.
Ouais.
Eh bien, il y en a des semaines puis des journées, mais je pense que c'est un peu plus important la santé mentale que la semaine de la santé mentale que la semaine de la sécurité publique, la sensibilisation à la sécurité publique. Alors, mettez des trépieds dans le cas, dans vos entrées, dans le cas qu'il y aurait des véhicules béliers. Non, c'est pas, on va laisser des ministres s'occuper de ça. C'est pas mauvais de s'en préoccuper par-ci, par-là, mais. Je sais pas. J'ai l'impression que je radote. On va aller chercher Éric Lantier qui est au bout du fil, qui va peut-être me corriger un peu. Comment tu vois ça, ma perception sur les semaines de sensibilisation, hein? La santé mentale avant la santé publique?
Ben, écoute.
La sécurité publique. La sécurité publique.
Ben, tu sais, comme tout le monde le dit, on peut marcher puis mâcher de la gomme. Je pense que c'est important de sensibiliser la population autant pour la santé mentale que la sécurité publique. Je pense que. Il faut avoir une juste proportion. Plus qu'on parle de santé mentale, plus qu'on apprend à comprendre les gens. Moi, ma première épouse était atteinte de santé mentale. Elle avait un trouble d'anxiété généralisée. Si j'avais compris ce que c'était, peut-être le cours d'histoire aurait changé à ce moment-là. Alors, c'est sûr que je suis sensible à ça un petit peu, là.
On se comprend à peu près. C'était pas dans notre agenda du jour. Alors, on va y aller tout de suite. Tu voulais me parler du modèle québécois en éducation, peut-être en santé, versus,
ouais.
Est-ce qu'il y a un modèle ontarien? On aime bien se comparer avec notre province voisine, qui souvent nous surpasse, ça dépend des domaines.
Mm-hmm.
Mais en éducation, là, c'est assez clair, on a vu des reportages là-dessus récemment. Ils sont plus forts que nous dans bien des domaines, les Ontariens.
Oui, ben c'est ça. Puis ça a été soulevé par Lise Ravary dans un article qui a été publié sur la plateforme du Journal Le Québec. Intitule « Pourquoi l'Ontario et pas nous? » Et puis, elle se pose la question « Pourquoi chez les Franco-Ontariens, le taux de diplomation atteint 91% contre 64% au Québec?
Ouais. »
Pourquoi 94% des résidents ont un médecin de famille? Pourquoi il y a des cliniques de super infirmières partout?
Mm-hmm.
Pourquoi l'essence coûte moins cher, etc.? Puis, elle pose comme question, et c'est une question assez drôle parce que j'en discutais avec mon épouse il y a quelques jours. Comment ça se fait qu'on s'inspire pas de ce qui va bien ailleurs? Et on attend toujours de trouver la meilleure idée, comme si on n'a pas le droit de copier, on n'a pas le droit de s'inspirer des autres.
Je pense aussi aux médicaments, le prix que les Ontariens payent, ils ont une assurance collective là-dessus, et toujours en 2018 inférieur à ce qu'on paye au Québec, malgré des révélations d'Amir Kadir en ce sens-là, il y a quelques années, qui avait été un des points marquant de sa carrière. Là, il a annoncé son retrait de la vie politique en passant la semaine passée. Bon, je sais pas. C'est peut-être par xénophobie. On n'aime pas nos voisins tête carrée, maudits anglais, tout ça, non. Mais non.
Non, dans le sens que c'est sûr que on aime ça faire les choses différemment au Québec. On est une société distincte. On veut avoir nos leviers. Puis ça, c'est normal. Mais je pense qu'il est temps de s'inspirer des sociétés, des nations, des provinces, des pays qui l'ont l'affaire. T'sais? Puis je pense qu'au Québec, on est assez intelligent pour être capable de reproduire ce que d'autres sont capables de bien faire. Et quitte à le faire mieux, mais au moins partir au même point de départ que nos voisins pour arriver au même point d'arrivée. Et je trouve que Lise Ravary met le doigt dessus.
Ben effectivement. Puis, tu sais, c'est ça, je comprends pas pourquoi on se comparerait pas davantage. Il n'y a pas juste les Ontariens non plus, effectivement. Intéressant. Sinon, modèle, on parle de modèle québécois, le modèle libéral fédéral. J'ai ça décrit comme ça. Où tu vas aller avec ça?
Ben, écoute, parce que ce qui est arrivé, là, c'est que récemment, il y a une députée du Parti conservateur qui est allée prendre un verre avec des collègues de son parti. Et c'est Rachel Arder, qui, elle, devait être justement la représentante du comité de la condition de la femme, un comité parlementaire qui siège au fédéral, et elle a été refusée il y a quelques mois parce que elle était d'allégeance pro-vie. Et là, il y a des gens qui ont capté leur conversation récemment, il y a quelques jours, puis elle manifestait avec des collègues, justement, son désaccord et son mécontentement du fait que la vision libérale fédérale en ce moment propage une vision féministe trop radicale. Et donc, si on n'est pas d'accord avec la vision féministe du gouvernement libéral actuel, eh bien, on perd des privilèges.
Peut-être. Ils sont assez rapides sur la gâchette. Il y a pas un député aussi qui s'est fait tasser de son poste pour, tu sais, dans une certaine commission, simplement avoir manifesté un désaccord avec son parti. Puis je pense à Wilfrid Laurier, à qui Justin Trudeau aime se référer, les fameuses voix ensoleillées là, auxquelles il a fait référence tout de suite à son élection. Sunny Ways, my friend, Sunny Ways. Ça vient de Laurier, puis lui, il en laissait se produire des votes à conscience libre, mais à plein, incomparablement. C'était dans la fibre libérale de base, et ça semble une époque totalement révolue, malgré qu'on aime bien se référer à là.
Mais c'est ça que moi je trouve dommage, parce que la vision libérale fédérale tend à nous envoyer une ligne directrice au Canada en disant « ça, c'est la voie à suivre. En dehors de cette voie-là, eh bien, on est à côté de la traque. » Et donc, les privilèges, les cadeaux, les subventions vont aller à ceux qui ont la même idéologie. Mais dans un pays libre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et lorsque on se campe dans une idéologie de la pensée unique, ben on arrête d'évoluer.
C'est sûr.
Ça, c'est parce qu'on n'est pas confronté. Comment? Si tu es dans une idéologie de pensée unique, tu n'es pas confronté parce qu'il y a juste ta pensée qui est bonne. Tu peux pas laisser les autres amener des arguments pour te faire progresser.
Le meilleur gouvernement qu'on a eu au Québec, là, je redescends de palier, c'est celui, dans ma tête, de René Lévesque en 1976 avec le Parti québécois, et ça bardait dans le Conseil des ministres puis dans les caucus. Ça allait dans tous les sens. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche, et on brassait tout ça. Ça donnait le meilleur des résultats possibles. On est loin de là avec les libéraux de Justin Trudeau qui aiment pas trop des remises en question, et c'est pas bon signe avec le gouvernement Couillard actuellement aussi. Les libéraux du Québec, en 2018, ça se sent que c'est une voie, et si on louvoie un peu d'un côté ou de l'autre, on va se faire rabrouer, on va se faire tasser, etc. Et ça va pas bien leurs affaires non plus. Alors, ils devraient peut-être s'inspirer des gens qui aimaient plus le bras camarade. On change de registre totalement pour terminer. Ensemble, Éric Lantier, tu voulais me parler d'envisager la peine de mort pour un cas particulier suite à des incidents en Inde, là.
Oui, un incident vraiment malheureux qui est survenu en Inde, puis ça a été publié sur la plateforme de la presse dans un article qui a été intitulé « Adolescente violée et brûlée vive en Inde, le suspect principal arrêté ». Ce qui est arrivé, c'est que les parents de la jeune fille, qui est autour de 16 ans, sont allés dans un mariage, elle était toute seule. Le présumé agresseur l'a violé, l'a emmené dans la forêt. Et quand les anciens du village, parce que là-bas, ça fonctionne pas tout à fait comme ici, là, ont appris ça, ils ont donné une amende de $750 puis ils ont demandé de faire sans abdos. tu vois un peu le suspense. Et puis, là, il a pas aimé ça, cette conséquence-là. Il a frappé les parents de la fille et il a mis la fille dans la maison, il a brûlé la maison, puis la fille qui est victime est brûlée vive. Et là, ce qu'on est en train de discuter, c'est que s'il est reconnu coupable, eh bien, à cause que maintenant, en Inde, lorsqu'on viole un enfant ou une personne mineure, on est passible de peine de mort. Alors, je me dis, est-ce qu'on devrait appliquer ça, nous, au Canada? Ça, c'est la question que j'aimerais qu'on débatte ensemble.
Écoute, tu sais, évidemment, là, je vois les yeux autour de la table. En fait, je vais les laisser parler. J'ai l'impression que ça peut être favorable, Ali. Comme ça. Vite de même.
Je te dirais que non. Moi, je suis pas favorable parce que c'est trop facile. Je trouve que effectivement c'est l'un des plus gros crimes, il y a un des plus affreux que c'est que de torturer et de faire du mal à une personne mineure, à un enfant. Puis on sait un peu comment ça se passe dans nos prisons ici. Quelqu'un qui fait un vol de dépanneur va aller là-bas, il va être en vacances, mais quelqu'un qui viole un enfant se ramasse en prison, il va passer tout un quart d'heure.
Soit qui lui-même va se faire violer ou qui va être sous la protection puis il va être 24 heures, 23 heures sur 24 dans une petite cellule de béton.
Ouais. Fait que moi personnellement, entre dire OK, t'as fait ça, ben on te tue, puis que lui, ben pif paf, il paye pas vraiment le prix de ses gestes.
C'est vrai.
Lui, il le paye pas finalement, parce que finalement,
puis là,
c'est la personne qui paye la sentence quand on fait une peine de mort, finalement, c'est tout l'entourage de cette personne-là qui se retrouve avec la peine. Parce que, tu sais, celui qui a commis le geste, lui, est passible de ça. Mais toute sa famille, eux autres, savaient pas, un, que lui ferait ça, puis deux, appréciaient cette personne-là. Fait qu'en tuant cette personne-là, c'est toute la famille qui paye le prix du geste.
Ouais. Bon, il économise 60 000 piastres par année, l'État.
Oh oui, mais je veux dire, tu sais, c'est quand finalement on fait porter le drame aux mauvaises personnes, je pense.
Ah, intéressant.
Je pense que de laisser pourrir ces pourritures-là en prison, ça vaut le coup.
Yvon Demers?
Ben, si je me réfère, on a déjà eu un peu la peine de mort lorsqu'on s'attaquait à un policier ou...
Mais il y a déjà eu la peine de mort au Canada, ouais, généralement, pour meurtre.
Lorsqu'on attaquait un meurtre, ouais, on meurtre un juge... Ouais. Meurtre d'un policier.
Ah, c'était même pas juste ça. Il y a un bout de temps où c'était juste pour un meurtre, tu pouvais être... tu sais, la mère, entre guillemets, d'Aurore, l'enfant martyr, avait été condamnée à peine de mort. Finalement, ça avait pas été appliqué nécessairement, là. Je sais plus. Mais il y en a eu dans l'histoire, là. Et ça a été enlevé parce que, bon, il y a des cas où on peut se tromper. C'est surtout ça qui faisait craindre bien des choses. Éric, j'ai hâte de t'entendre. Je vous donne mon avis après, là.
Oui, c'est ça. Ben, ça? Dans ce cas-ci, c'est assez flagrant que si le présumé agresseur est venu tabasser les parents puis a brûlé la maison, il risque fort probablement d'avoir un lien entre l'agression sexuelle puis ce qui a suivi. Moi, je pense que la peine de mort devrait être appliquée dans ce cas-là pour lancer un signal clair en disant que là, on a franchi une ligne. T'as fait une agression à quelqu'un qui est vulnérable. Puis quand je dis ça, là, je veux bien que les auditeurs me comprennent. Agresser un adulte sexuellement ou agresser un adulte, c'est grave.
Ouais,
moi, c'est grave.
Ouais.
Mais un enfant, c'est encore plus grave.
Tout le monde s'entend là-dessus, je pense. Tout le monde s'entend là-dessus.
Ça va.
Alors, c'est pour ça que moi, je dis, il faut que l'accusé soit reconnu coupable officiellement, mais maintenant avec l'ADN, maintenant avec toutes les tests, avec la technologie, la marge d'erreur est beaucoup plus mince, vraiment. Et je pense que dans ce cas-là, moi, j'accepterais la peine de mort. Je suis favorable à cette loi qui est en vigueur en Inde.
Est-ce que tu penses que cette loi-là peut empêcher que des crimes se produisent, tu sais, en amont? Le gars va se dire, j'encours la peine de mort, alors je violerai pas d'enfant?
Ben, écoute, ça, c'est comme, comment je te dirais ça? C'est comme maintenant quand on prend de l'alcool puis on se dit, faut pas que je dépasse 0.08. Donc, il y a des gens qui disent, soit je vais boire moins, soit je vais avoir un chauffeur désigné. Puis il y en a d'autres qui se risquent quand même. Moi, je crois pas que ça va éliminer, ça va éradiquer les viols d'enfants, mais ça lance un signal, clair, ça établit une valeur dans la société en disant, ça, c'est une ligne qu'on a franchie.
Ça peut sauver des cas, un cas sauvé étant très très bon. On ne serait-ce qu'un, on veut ça.
Moi, ça peut dissuader des gens qui penseraient commettre un acte comme ça.
Effectivement, moi, j'irais en ce sens barbare. C'est barbare, la peine de mort. Pour moi, c'est pas 2018. Mais j'irais plus barbare, mais sans tuer personne. Genre, une lapidation jusqu'à limite que il a crevé, là, on l'enlève de là, on le ramène dans sa cellule, puis on y en refera une autre dans un an. Ou tu sais, il faut qu'il souffle. Okay?
Ben, c'est un peu là, ce que j'avais l'idée aussi. Il faut qu'il paye le prix long terme de ce qu'il a fait.
Ouais.
Puis, je crois pas, tantôt, il donnait l'exemple de l'alcool au volant. Un peu comme pendant un moment, il voulait diminuer à 0.05 au lieu de 0.08. Ce qui, moi, à mon sens, fait pas de sens. Parce que ceux qui le dépassent à 0.08 vont le dépasser à 0.05. Ben, ceux qui auraient fait un viol en risquant la peine de prison à vie vont faire un viol pareil en risquant la peine de mort. Je crois que c'est des gens qui ont pas nécessairement l'équilibre mental qu'on a, nous autres, à faire le pour et les contre de nos gestes. Je pense que c'est des gens qui y vont avec leur pulsion, avec leur instinct. Fait que je pense pas que la peine de mort aura une incidence vraiment à dissuader ceux qui font ces genres de gestes.
30 ans de coups de fouette, Éric.
Ouais, c'est ça. Le punitif physique.
Éric, vas-y.
Oui, mais c'est parce que moi, à chaque fois que j'entends des reportages ou j'écoute les nouvelles, par exemple, et qu'il y a eu un viol d'enfant ou un enfant a été battu sauvagement, a été tué, par exemple. Et à chaque fois qu'il y a une peine sévère, la réaction des parents, c'est « justice a été faite
».
Et il y a quelque chose qui... ça ramène pas l'enfant. Je veux dire, quelqu'un qui a perdu un enfant, là, c'est une douleur qui est à vie. Mais de dire au moins le coupable, il a vécu une sentence qui est proportionnelle à l'offense. Et moi, c'est dans ce sens-là. Moi, je suis prêt, puis c'est pour ça que j'amène le débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, les sentences à l'égard des violeurs d'enfants ou de ceux qui ont commis des crimes horribles envers des enfants n'ont pas toujours une peine qui est proportionnelle à l'offense. Et c'est là que moi, je me questionne.
On s'entend là-dessus. Mais là, je viens d'avoir une idée.
Ouais.
Je retire des coups de fouet. Ben, tu sais, des coups de fouet, ça se referme jamais. C'est quand même pas si mauvais. Mais, coups de fouet tous les jours. Mais j'ai déjà vu des affaires de... Tu sais, dans un enclos, je sais pas moi, un bœuf, puis quelque chose, quelqu'un de retenu, là, attaché. Ben, sérieux, proportionnel à l'offense. Tu vas te violer, tu vas te faire violer, toi.
Il faut qu'il y ait l'élément de souffrance.
Ouais, de la vraie, là.
Ouais, il faut qu'il y ait de la souffrance.
Fois 10.
Pour avoir.
C'est un enfant.
Ouais.
Mm-hmm.
Ah, là, il garde.
Ouais.
Écoute.
on rit bien, mais c'est parce que ce genre de sentence-là, il n'y a pas un parti politique qui va mettre ça dans
non. Non, définitivement pas.
Mais moi, si je t'ai lu, je le dirai pas en campagne, mais c'est ça que je fais. Non, j'avoue, moi non plus, mais je voudrais aller, tu sais, trouver de quoi de mitoyen pareil, parce que sérieux, la peine de mort, on va échapper des cas. Il va y avoir des innocents qui vont être condamnés à mort.
C'est ça le problème qu'il y a déjà beaucoup dans plusieurs États américains qui ont encore la peine de mort, c'est que le taux de mauvaise condamnation est trop élevé. Là.
C'est arrivé. Un cas est un cas de trop dans ce sens-là aussi. Un innocent exécuté par l'État.
C'est lourd.
C'est spécial. C'est tout un débat, Éric. Merci de nous amener ça. On continue à réfléchir là-dessus.
C'est bon, ça.
Puis on se reparle la semaine prochaine.
Salut, Éric.
Bonne fin de journée.
Excellent. Bonne semaine. Merci, au revoir, messieurs.
Éric Lantier, mesdames, messieurs, vous pouvez aller continuer le débat avec lui. Il aime toujours discuter. Il a une page Facebook. Éric, ça s'écrit... Ben simplement, Lantier, il y a un H là-dedans. Hein? Vous êtes dans Politigui correct.